Nous sommes le mardi 7 juillet. Bienvenue pour ce nouveau journal en français sur KBS World Radio. Vous êtes en compagnie de Wu Haiyang et de Baptiste Morigel.
À la une aujourd'hui, Hanwha Ocean échoue à décrocher le juteux contrat de sous-marin de patrouille canadien, finalement remporté par un constructeur allemand. Nous évoquerons également le choix de l'actuel aéroport militaire de Guangzhou pour accueillir le futur cluster de semi-conducteurs. Et nous terminerons par un chiffre alarmant, 90% des enseignants exposés à des paroles haineuses de leurs élèves.
Nous ouvrons cette édition avec la décision du Canada de ne pas sélectionner le sud-coréen Hanwha Ocean pour le juteux contrat de sous-marin de patrouille.
C'est le constructeur allemand ThyssenKrupp Marine Systems qui a été choisi comme soumissionnaire privilégié pour l'opération. L'annonce a été faite lundi, heure locale, par le Premier ministre canadien Mark Carney à la base navale d'Halifax dans le sud-est du pays. Ottawa a toutefois précisé qu'en cas d'échec des négociations en vue de la signature du contrat définitif avec TAKMS, il pourrait entamer de nouvelles discussions avec Hanwha Ocean. Pour rappel, ce projet vise à doter la Marine royale canadienne de 12 nouveaux sous-marins destinés à remplacer sa flotte vieillissante de classe Victoria. Sa valeur totale est estimée à 60 000 milliards de won, soit environ 34 milliards d'euros, en incluant les coûts de maintenance, de réparation et d'exploitation sur 30 ans.
Une annonce qui a forcément fait réagir l'administration sud-coréenne du programme d'acquisition de défense, DAPA.
Oui, la DAPA a regretté aujourd'hui que les efforts déployée par le gouvernement et les industriels sud-coréens n'est pas abouti aux résultats escomptés. Elle a toutefois estimé que la Corée du Sud avait pu démontrer les progrès rapides de son industrie de défense en rivalisant avec l'Allemagne, dont elle dépendait autrefois pour la construction de ses sous-marins. Elle a également souligné que dans le cadre de cet appel d'offres, le sous-marin sud-coréen de 3000 tonnes Dosan Han Chang-ho avait démontré sur le marché mondial ses capacités de navigation longue distance, son endurance opérationnelle et sa stabilité en traversant le Pacifique pour rejoindre le Canada. Enfin, l'institution a reconnu ne pas avoir réussi à surmonter des contraintes d'ordre stratégique, tout en affirmant vouloir tirer des enseignements de cet échec afin de faire de la Corée du Sud l'une des quatre grandes puissances mondiales de l'industrie de défense. Elle a ainsi laissé entendre que dans son choix, le Canada avait tenu compte de l'interopérabilité avec ses alliés de l'OTAN.
Toujours à l'international, Lee Jae-myung entame aujourd'hui un déplacement de 5 jours à l'étranger.
Le président de la République est parti ce matin pour la Turquie, sa première étape. Demain et mercredi à Ankara, il participera au sommet de l'OTAN à l'invitation de son secrétaire général Mark Rutte. Le premier jour, il assistera aux côtés de ce dernier à une réunion des dirigeants des quatre partenaires de l'Indo-Pacifique regroupant le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il prendra également part au forum de l'industrie de défense de l'OTAN où il prononcera un discours d'ouverture avant d'assister au dîner officiel offert par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le deuxième jour, des entretiens bilatéraux sont prévus afin de renforcer la coopération dans le domaine de la défense.
Et sa deuxième et dernière étape le mènera en Mongolie, à Oulan-Bator, plus précisément, pour la première visite d'État d'un président sud-coréen depuis 15 ans.
Oui, jeudi, Lee Jae-myung s'entretiendra avec son homologue mongol avant d'assister à une cérémonie d'échange de protocoles d'accord et à une conférence de presse conjointe. Il prononcera également un discours au forum d'affaires Corée-Mongolie. Le lendemain, le chef de l'État se rendra au mémorial dédié aux médecins et militants indépendantistes coréens Itaejun, avant de rencontrer les membres de la communauté sud-coréenne. Enfin, samedi, il assistera en qualité d'invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture du festival de Nadam, la plus grande fête traditionnelle mongole.
Venons-en au méga-projet d'IA avec un premier pas, fait puisque le site abritant l'actuel aéroport militaire de Gwangju a été sélectionné comme celui du futur cluster des semi-conducteurs.
Cette annonce a été faite hier par le secrétaire général de la Maison Bleue à l'issue d'une réunion de suivi présidée par Lee Jae-myung. Ce choix a été fait sur proposition de Samsung Electronics et de son concurrent SK Hynix, qui prévoit d'y investir 800 000 milliards de won pour construire respectivement 2 usines de puces électroniques. Le site en question a plusieurs atouts. Il permet de sécuriser un terrain d'environ 8,2 km² dont le nivellement est déjà terminé et de minimiser par conséquent la durée des travaux de construction. De plus, il est situé à proximité du centre-ville et de la gare de Sokjong, desservie par les trains à grande vitesse, ce qui facilitera le recrutement des employés, leur installation ou encore l'accès logistique aux routes, aux ports et aux aéroports proches. Les observateurs estiment que le succès du projet dépendra du calendrier de la relocalisation de l'aéroport militaire Il avait été décidé de transférer cette base aérienne vers Muan, environ 40 km de Gwangju, mais l'opération piétine en raison de l'opposition de la commune où avait déjà inauguré un aéroport international en 2007.
De son côté, Samsung Electronics anticipe des résultats financiers records pour le deuxième trimestre 2026.
Oui, le géant sud-coréen de l'électronique a annoncé ce mardi qu'au deuxième trimestre 2026, son bénéfice d'exploitation et son chiffre d'affaires devraient avoir augmenté respectivement de 1810 et de 129% sur un an pour atteindre 89 400 milliards et 171 000 milliards de won. Des résultats portés par le super cycle des semi-conducteurs et sa compétitivité technologique. Ce serait la division Device Solutions, spécialisée dans les mémoires, qui aurait généré la majeure partie des profits opérationnels du fait de la pénurie de puces et de l'explosion des prix de la mémoire provoquée par l'augmentation des investissements mondiaux dans les infrastructures d'intelligence artificielle. La filiale phare de Samsung Electronics profite pleinement de la hausse des demandes, d'autant qu'elle dispose de la plus importante capacité de production de mémoire au monde. Elle a également commencé à multiplier la part des produits à haute valeur ajoutée en lançant en février la production en masse pour la première fois au monde de la HBM4, la sixième génération de mémoire à haute bande passante. Les résultats définitifs et détaillés sont attendus fin juillet.
Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
Un chiffre inquiétant à présent. 90% des enseignants sont exposés à des paroles haineuses de leurs élèves.
C'est ce que révèle un sondage réalisé pour le syndicat national des enseignants auprès de 1109 enseignants de primaire, de collège et de lycée de tout le pays. 9 professeurs sur 10 ont ainsi dit avoir été exposés à des discours haineux, discriminatoires, révisionnistes ou antidémocratiques de leurs élèves ces 12 derniers mois. Dans le détail, ils sont 73,9% à répondre à avoir entendu ou vu en personne ce type d'expression dans les paroles et les devoirs de leurs élèves ou de leurs exposés, 15,4% déclaré en avoir entendu parler par leurs collègues ou par leurs élèves. C'est au collège que le plus grand nombre d'enseignants ont entendu personnellement les élèves les utiliser, avec 81,7% contre 68,4% à l'école primaire et 68,5% au lycée. Les expressions qu'ils ont rencontrées le plus fréquemment sont celles ridiculisant la mort ou la tragédie d'hommes politiques célèbres ou de figures historiques. Viennent ensuite les propos haineux ou discriminatoires envers les femmes, les minorités sexuelles, les personnes en situation de handicap ou les immigrés.
Pour terminer ce journal, un débat public sur l'installation d'une enseigne Hangul sur la porte Gwanghwamun a été ouvert.
Les ministères de la Culture, des Sports et du Tourisme et de l'Intérieur et de la Sécurité ont annoncé aujourd'hui l'ouverture des inscriptions pour les citoyens souhaitant participer au Forum de tous, un débat public consacré au projet d'ajouter une version Hangul à l'actuelle inscription en caractère chinois de Gwanghwamun. Près de 200 citoyens ainsi que des représentants d'institutions et des experts participeront aux échanges qui se tiendront le 26 juillet au Baekhyun Noli de l'université Yonsei à Séoul. Le ministre de la Culture, Choi Woo-young, a déclaré que Gwanghwamun constituait un patrimoine culturel et un espace emblématique de la nation, tandis que le Hangul représentait un précieux symbole de la fierté culturelle du pays. À l'occasion du centenaire du Gagyanal, à l'origine de l'actuelle journée du Hangul, il a dit espérer que cette concertation permettrait de recueillir un éventail plus large d'opinions et d'élargir le consensus au sein de la population.
Merci d'avoir suivi ce journal. Plus d'informations sur notre site internet. Tout de suite, c'est au jour le jour avec Clément Char. Bonne soirée à tous.